c'est la première, si tu veux. J'aime toujours mettre des images. Je trouve que l'image parle parfois plus que les paroles, ou complète les paroles. Mais j'aime beaucoup l'image, puisque Dieu s'est fait chair. C'est pas neutre, n'est-ce pas ? Visuel, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé. C'est extraordinaire. Alors moi, je voudrais vous poser une question ce matin. On m'a posé la même question très récemment. Qui est Dieu ? C'est vrai, c'est intéressant ça. Qui est Dieu ? Et quand on rencontre des enfants d'un peu partout, puisque d'habitude, avant, je prêchais davantage aux enfants qu'aux adultes, bien que les adultes ne sont que d'anciens enfants, il faut qu'ils s'en rappellent, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais qui est Dieu pour vous ? Allez, répondez, 3-4, s'il vous plaît. Je vous apostrophe. Allez, on se réveille un petit peu. Allez.
Celui qui m'a créé.
Il est. Ah, Dieu m'a. Donc il est le créateur. Ok.
L'éternel.
L'éternel, c'est quoi l'éternel ?
Il a toujours existé.
Il a toujours existé, ah, d'accord.
Il est Alpha et Omega.
Ah ouais ? Va dire ça aux enfants de la RCA, toi. Il est l'Alpha et l'Oméga. Ils disent, on n'a jamais fait de grec. Mais tu as raison, il est le début et la fin. Ce qui a permis un jour à un enfant de me dire, ben, il n'est donc pas éternel, puisqu'il est le début et la fin. Des fois, nous avons des affirmations comme ça, qui sont vraies, qui sont justes, mais qui posent peut-être des questions, et qui nous amènent à aller plus loin dans notre réflexion et dans notre découverte de celui qui est Dieu, de celui qui est notre sauveur, de celui qui est trois fois saint. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer et je vais féliciter tous ceux qui ont participé à cette fête de Noël. Bien sûr, dimanche dernier, on était ravis, n'est-ce pas ? On était simplement tristes de voir que Jésus était dans un berceau du XXe siècle. Sur roulette, mais... Ah non, il était dans un petit panier. Et là, vous allez prêcher au Groenland. Alain, c'est pour toi, cette image. Hein? Tu vas aller en Islande, là. Tu vas aller au Canada, dans le Grand Nord. Et il faut donc une adaptation à la bonne nouvelle de Jésus. Bethléem, c'est bien Bethléem. Ça veut dire la maison du pain. C'est formidable, bien que la traduction est un peu des fois soumise à controverse. Mais la maison du pain, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Rien de ce qui s'est passé avec la venue de Jésus sur la terre a été fait, entre guillemets, gratuitement. Tout avait sens, tout avait une portée, tout avait un enseignement le plus profond. Et nous, on passe rapidement, il est l'éternel. Et nous, on passe rapidement, il est l'alpha et l'oméga. Tout ça, c'est vrai. Mais, bon, allez. On est dans une salle chauffée. Hein. On va aller un peu plus loin, alors. Au commencement, lisons-le ensemble, s'il vous plaît. Allez-y. Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres.
C'est fantastique. Et tout ça, on l'a trouvé dans la Bible. On ne l'a pas inventé. C'est pas magique. Tout d'un coup, même si l'enfant est dans un univers, entre guillemets, magique, un univers spirituel un peu magique, où il se passe plein de choses, dans toutes les races, dans toutes les cultures, eh bien, il faut que la parole de Dieu nous révèle celui qui est Dieu. Mais pas seulement par la parole, également par l'esprit. Et il va nous amener à avoir une filiation. Et cette filiation, c'est le Père qui nous la donne. Ça, c'est extraordinaire. Noël, on le fête, nous, le 25 décembre. Mais les orthodoxes, savez-vous qu'ils n'ont pas Noël en même temps que nous ? Ils l'ont au mois de janvier. Il y a des calendriers complètement différents. Le 25 décembre, c'est une date qui a été arrêtée quand, en fait ? C'est pas une date, c'est pas écrit dans la Bible. Jésus est venu le 25 décembre. Il a fallu arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de fêtes. Le peuple de Dieu, quand il a reçu la Torah, il y a eu après toutes les applications que Moïse donnait, et il y avait besoin de fêtes, et vous fêterez, et vous célébrerez. Nous avons besoin de fêtes. C'est marrant, à aucun moment il écrit « Vous ferez la fête de la choucroute. Vous ferez la fête de la bière en Bavière. » L'homme, l'individu, chacun d'entre nous, on se crée des fêtes. On se crée des occasions de fêtes. Mais une fête, ça va plus loin qu'être heureux ensemble ou prendre un bon moment pour oublier les tracas du monde. Une fête, pour nous, c'est une célébration. Célébrer les choses que le Seigneur nous a données. Il y a toutes sortes de fêtes, n'est-ce pas? De mémoire, je lis. Le Yom Kippour. Ça vous dit quelque chose, le Yom Kippour? Hein, c'est le grand pardon. C'est la plus grande fête juive. Vous avez la fête de Soukhot. Hein, ça y est? C'est important d'aller chercher ça, n'est-ce pas? C'est chaque fois une célébration. C'est la fête des tabernacles. C'est la fête où on se rappelle qu'on a été dans les tentes, dans le désert. Et chaque fois, on a même... Tiens, Rosh Hashanah, le début de l'année. Parce qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Donc on a besoin de culturer Jésus. On a besoin de le mettre dans notre culture. Comme les Esquimaux avaient besoin, les Groenlandais ou autres, avaient besoin de mettre... Francine et moi, on était dans plusieurs pays, entre autres au Pérou. Et c'était marrant de voir Jésus avec le petit chapeau péruvien, le bonnet péruvien qui cachait les oreilles. Oui, les gens avaient besoin d'identification, de s'identifier. Un fils nous est donné. Alors un fils qui nous ressemble, quoi. Pas un fils qui va devenir pas comme nous. Et la fête de Noël, c'est vraiment cette célébration, n'est-ce pas? Je voudrais également vous poser une question sur cette fête de Noël. C'est vrai qu'au commencement, et au commencement, il y avait dans la pensée de Dieu, il y avait la pensée de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas commencé à s'appeler Jésus? Nous, on dit les choses comme ça, on est imbibé d'enseignement, on est imbibé de culture chrétienne, s'il en est. Jésus s'appelait de toute éternité la parole. Et la parole est devenue Jésus. Et la parole a été faite chair. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu sauveur. Alors, nous, on lit le texte biblique comme ça, allègrement. Et bien souvent, les adolescents, ils nous embêtent parce qu'ils nous posent des questions, justement, qui nous obligent à réfléchir, qui nous obligent à trouver les réponses dans la parole de Dieu. Et moi, j'aimerais bien... de plus en plus, avoir des groupes de jeunes pour pouvoir les embêter avec des questions. Parce que j'ai des réponses. C'est comme le vieux rabbin dans les rues de New York, il se promenait en disant « J'ai des réponses, quelqu'un a-t-il une question ?» Moi, je les aime, ces gars-là. Ils sont un petit peu titillants, comme ça. Alors, dans Genèse 1, au commencement, oui, la Bible ne nous dit pas « Qui est Dieu ?» Dieu, créateur, voilà. Il ne nous explique pas qui est Dieu. Par contre, on va voir dans tout le reste de la Bible qui est Dieu. Quelles sont ses prérogatives? Quelles sont ses différentes fonctions et différents rôles? Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur la différence entre la fonction et le rôle, ou les rôles. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, toi qui as fait un petit peu de philo, là? Hein, voilà. J'ai entendu ce que tu as dit il y a quelques semaines, dans les recherches, dans ta prédication. Ouais, c'est bien. Absolument. Au commencement, Dieu. Alors, qui est Dieu? Il est tout ce qu'on a dit. Et j'ai bien aimé, moi, aller rechercher l'original du texte. Dieu n'a jamais été traduit par le mot Dieu. Dans ce verset, il est traduit par Elohim. 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 C'est embêtant parce que si on regarde la traduction en français, c'est les dieux. C'est Dieu au pluriel. Alors qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et on sait que Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Je ne donne pas l'accent parce que je l'ai pas. Mais Eloah, ça veut dire un dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Mais là, rien que cela, ça nous embête. Parce que dans toutes les mythologies, on a plein de dieux. Pour ne venir qu'à une mythologie plus proche de nous, on a Zeus, on a toute la mythologie romaine, hein, et ça s'est même terminé avec l'inauguration des Jeux Olympiques avec le dieu Dionysos. Et on a cru, nous les chrétiens, qu'il y avait un blasphème complet sur la Sainte Seine. Non, c'était Dionysos, c'était le dieu du vin. Et c'était la fameuse célébration des bacchanales. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être eu un petit quelque chose qui pouvait penser à la Sainte Seine, hein, mais ce n'était pas ça à l'origine. Il y a toujours eu des fêtes. Et ces fêtes, elles ont une signification. Alors nous, on va prendre la véritable signification en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu la version de la Bible écrite par Chouraki. Chouraki est un monsieur, le papa Chouraki était maire à Jérusalem tout un temps, et lui, il a voulu traduire la Bible en français, mais sur la base hébraïque, et après sur la base araméenne et grecque. Et il traduit par Elohim, c'est intéressant. Au lieu de dire Dieu, il dit Elohim créa les cieux et la terre. Et je dis, quand je lis ça, mais c'est évident. On trouve tout. L'esprit, Dieu, qui est à l'origine de toute chose, et on a l'esprit de Dieu, et la parole dit qui est la parole. On retrouve cette tri-personnification de Dieu. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit, hein, vous avez le droit de réagir et de me dire ouais, tu enfonces une porte ouverte, Alain. Peut-être. Mais moi, quand j'enfonce cette porte ouverte, c'est que je vois que la lumière est bonne. Et que cette lumière, j'en ai besoin. C'est comme ça que le Seigneur m'a rencontré. Il m'a rencontré en me remplissant de sa lumière. Et derrière, en même temps, pas derrière, en même temps que je recevais cette lumière il y a plusieurs dizaines d'années, eh bien, je recevais la joie. Je recevais la paix. C'est cette lumière qui est porteuse de vie, n'est-ce pas? C'est exprimé. On peut aller un tout petit peu plus loin. Les 10 commandements, vous connaissez, n'est-ce pas? Allez, je vous les ai mis en anglais exprès. Je pense que c'est intéressant d'aller voir les autres choses. Hein? My English is very bad. My French is perfect. Vous pouvez, allez, on y va ensemble, là. Premier commandement. Non, mais en français, allez-y, je vous en prie. Puisqu'on est francophone ici, hein, allez-y. Alors, premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, tiens. Pas d'autre Dieu. Et la traduction, c'est pas Dieu Elohim. C'est Dieu Yahvé. Yahvé, c'est le fameux tétragramme. YHVH. Qui n'est pas vocalisable, parce qu'il n'y a pas de vocale, de voyelle dans le texte hébreu. Et alors, qu'est-ce qu'ont fait les gens, entre autres les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas, ils ont pris le terme Adonai, qui veut dire Seigneur, et ils ont pris les voyelles de Adonai pour les mettre dans le tétragramme. Et ce qui devient, après, alors, Yahvé. Mais Yahvé, c'est intéressant parce que toute la suite du Nouveau Testament, eh bien, Chouraki, il traduit par Elohim Yahvé. Qui a entendu le nom de Yahvé? Dites-moi. Vous l'avez entendu? Oui, non, mais en premier, avant vous, avant que vous naissiez. Qui a entendu ce nom pour la première fois? C'était pas du tout les esclaves qui étaient en Égypte, hein, du temps de Pharaon. Ce Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et qui massacrait, et qui mettait en esclavage le peuple hébreu.
C'est Moïse.
Eh oui. Et là encore, comment il s'appelait Moïse? Non, Moshé, d'accord. Oui, voilà, on a des réponses, c'est bien. Mais avant, qui est-ce qui a donné le nom à Moïse? Sa mère. Dans le texte hébreu, c'est écrit, parce que Moïse, ça ne vient pas de sa mère, ça vient de la fille de Pharaon, en principe. on va trop fouiller, mais c'est comme ça. Et on va accepter cette explication. Mais avant, la mère, elle n'allait pas attendre qu'une autre dame mette un nom à son fils. Et quand on lit le texte hébreu, elle le trouva beau. Et il s'appelle beau. Il s'appelle beau. Il avait des... Elle le trouva beau. On peut le traduire dans l'hébreu. Elle lui donna le nom de beau. C'est son identité. Les noms manifestent l'identité qu'on désire ou qu'on perçoit chez l'autre. Nous avons appelé notre fille, à longtemps, sans le savoir, Isabelle. Mais Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire temple de Dieu. C'est formidable. Voilà une fille qui est rentrée parfaitement dans la destinée que Dieu avait prévue pour elle. Bon, Marcel, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pour Marcel. Mais déjà, c'est intéressant, parce que derrière Marcel, il y a elle. Et dans le elle, il y a Dieu. Et comme dans Axer, j'aime beaucoup ça. Y, H, W. Il y a des H, il y a un H. Ça, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je fais partie du tétragramme. Alors tout ça, on ne va pas non plus s'en gargariser, mais c'est intéressant de se projeter dans la lecture de la parole de Dieu et d'y voir un certain nombre de choses facilement interprétables et non pas non plus pour dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais pour s'accaparer la parole de Dieu, pour la prendre pour chacun de nous. On peut regarder le suivant si tu veux. Parce que si je vous dis les 10 tables, les 10 commandements, on n'a pas fini si on veut s'en rappeler tous. Mais c'est important. Et ça, vous lisez couramment aussi. Ça, c'est de l'hébreu. Oui, c'est de l'hébreu. Nous, en tant qu'étudiants, on disait, non, pour nous, c'est du latin. Parce qu'on ne comprenait rien. Chaque culture a ses niveaux. Hein. Ça, c'est le schéma, ou le shama. C'est la prière principale juive. Et que nous dit cette prière principale? On imprègne l'enfant dès sa naissance de cette prière. Alors, cette prière, elle dit simplement, je ne veux pas la trahir, c'est le fameux « Écoute Israël ». Vous la connaissez, cette prière? Allez-y avec moi, alors, si vous dites oui. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Et puis ensuite, un peu plus loin, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais écoute Israël, l'Éternel est un. Il est notre Dieu. Il y a déjà cette unité qui va être proclamée dans le peuple juif malgré le polythéisme environnant. Toutes les cultures sont polythéistes. Le Dieu du vent, le Dieu de la mer, le Dieu du tonnerre, etc., etc. La déesse de l'amour. Tous ces gens-là existent. Mais ces gens-là, si on réfléchit un tout petit peu, pourquoi est-ce que les Hébreux, avec Moïse, ont voulu, et avec Dieu, ont voulu que cette prière soit répétée matin et soir, à midi également, jusqu'au lit où la personne va mourir. Tous les deuils en Israël se terminent ou commencent par « Écoute Israël, l'Éternel est Dieu, il est un, c'est notre Dieu ». Après, on pourra varier, tu l'as aimé de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, quand on a au moment de la fin. Mais, pourquoi? Pourquoi Moïse a voulu que cette prière sorte comme étant une des prières principales, n'est-ce pas, dans le peuple hébreu? Justement pour lutter contre le polythéisme. C'est la seule, entre guillemets, c'est la seule religarée, c'est la seule relation avec Dieu, et non pas religion, n'est-ce pas? Religarée, c'est relié. La religion, c'est autre chose, c'est une pratique. Alors que, il savait déjà Moïse par révélation que le peuple allait se tourner vers les faux dieux. Donc il fallait, dès le départ de ce peuple, lui inculquer, s'il n'y avait pas la révélation, il y avait au moins j'allais presque dire ce lavage de cerveau, tu sauras que je suis un. Tu vas me le répéter matin, midi et soir, de ta naissance jusqu'à ta mort. Parce que l'homme est tellement fou qu'il ne comprend pas l'unicité de Dieu. C'est incompréhensible, c'est un mystère, n'est-ce pas? Et quand on demande, écoutez, posez la question aux enfants. Jésus, il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de nous. Il est en haut, il est en bas, il est devant, derrière, autour de nous. En plus, il est le rocher de ma vie. Alors, il est quoi? Il est la porte. Il ne comprend rien. Il faut déjà une certaine maturité, une certaine réflexion pour comprendre une forme de symbolisme et pour comprendre l'omniprésence de Dieu. Et nous, on lit ça allègrement et on fait chanter ça allègrement, sans problème. Il est en haut, il est en bas, il est autour de nous. Et j'ai cherché à droite, j'ai cherché à gauche, j'ai trouvé personne. C'est extraordinaire. On est complètement rendu à une forme de simplification extrême. Alors, il ne faut pas faire non plus une étude de théologie et un master non plus pour saisir le Seigneur. Mais il y a des choses de base qu'on peut enseigner dès le début. La preuve, l'Éternel est un. Il n'y a pas d'autre Dieu, il est notre Dieu. Ça, c'est la prière extraordinaire qui va être gravée dans le cœur, partout, dans les mains de chaque Hébreu, de chaque Juif. Allez, on va se reconnaître. Ah, j'ai aimé cette photo. Je dis, je ne sais pas. Aldo, est-ce que tu te reconnais? Ah ben non, c'est une fille. C'est une fille, elle a un petit truc rose. Et là, c'est plutôt moi. Ah non, mais je n'ai pas les yeux bleus. Mais on a commencé, nous, par naître comme Jésus. Finalement, on a eu le même chemin. On est venu intra-utéro. On est venu dans le sein de la maman. Alors le sein, les enfants, ils croient que c'est là. Dans le ventre. Alors le ventre, c'est, on ne sait plus trop. Et on change tout. Les enfants, ils ont besoin de mots précis, propres, adaptés à leur âge, à leur sensibilité. Et c'est ça, c'est extraordinaire. Ça nous oblige, nous, à fouiller davantage. Plutôt que de sortir des gros textes et c'est écrit dans la Bible. Voilà, c'est comme ça. Il faut croire. Non, non. Moi j'aime cette identification. La différence entre la nature et l'essence. Ça m'a interpellé depuis longtemps. Ça, c'est de la philo. Bon, je te laisse ta place, explique-moi. Eh bien, je dis ça pour rire. Tu n'es qu'au début de la philosophie, n'est-ce pas? Puisque c'est l'étude de la sagesse. Ouais, absolument. Et c'est intéressant de voir que nous, on est dans la nature de Jésus. Mais on n'est pas dans la nature de Dieu. La nature, ça veut dire évolution. L'essence, c'est l'esprit. C'est un autre domaine. On pourrait dire la substance. On ne sait pas ce que c'est insaisissable. Alors qu'on a tous été, nous, des bébés. Tiens, tu peux mettre la suivante. Hein? Voilà Jésus. Oui. Le chemin de vous et de moi. Il a été placé dans le sein de la maman. Et il a connu plein de choses là-dedans. Il a connu les sentiments, il a connu des émotions, il a reçu la bonne nourriture. C'est intéressant d'ailleurs, il était nourri par le sang de la mère. Et quand on fait la Sainte Cène, quand on prend la Sainte Cène, la valeur du sang qui nous apporte justement la force, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Dans le sang de la maman, il y a des vitamines, il y a du magnésium, il y a toutes sortes de minéraux. Tout pour la vie. Et quand on communie, quand on prend cette communion avec Jésus, on reçoit tout ce qui est pour que la vie se développe. C'est extraordinaire. Jésus est passé par ce chemin-là. Moi j'aime. Au fait, de quel groupe sanguin êtes-vous? A, B, O, plus, moins. Moi, je suis du sang de Jésus. Et j'aime ça. J'aime ça. Le sang universel. Parce que le sang de Jésus, il est pour chaque culture. Il est pour chaque personne. Pour un petit gars, une petite fille, un vieillard, une vieillarde. Oui, parce qu'il m'a dit, il faut tout féminiser. Absolument. Et pourtant, on a chanté. Jésus, il est toujours le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aime bien le mot éternel. Le mot éternel, c'est un mot qui n'est pas venu comme ça par hasard. Mais je vous dirai la suite pour le mot éternel. Parce que dans cette image, je voudrais quand même lire Romains 3, 23. Tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Et nous, vivants, on a été séparés. Jésus, il a été séparé de la mère. Il a vécu cette même séparation. Le cordon ombilical a été coupé. Mais il n'a pas été coupé de la relation avec le Père, avec la substance Dieu. Il n'a jamais été coupé parce qu'il n'était pas né pécheur. Il avait été fécondé. Ça s'appelle cette fécondation de l'esprit, par l'esprit, la parthénogenèse. Pas besoin d'un partenaire. Pas besoin de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Pas besoin. Et quand on lit les sourates dans le Coran, on se rend compte qu'ils sont très embêtés. Parce qu'ils disent qu'effectivement, ils disent que Jésus, c'est le fils de Marie. Ils ne disent pas que c'est le fils de Joseph, c'est pas Ben Joseph. Ils sont obligés de dire, parce que le texte est un mensonge, qu'il est le fils de Marie. Ils ne peuvent pas nier cela. Ils peuvent nier plein d'autres choses. Marie, elle a accouché près d'un palmier. Quand on lit le Coran, dans les sourates 19 ou 9. Non, non. Marie, elle était réellement dans cette crèche. Elle était réellement à Bethléem, maison du pain. Elle a suivi son mari. Mais il y a eu séparation un jour. Mais pas Jésus. Jésus n'a jamais été séparé du Père. Mais pourtant, il est né parfaitement homme, parfaitement humain. Il a pris la nature humaine sans la condamnation. Et il a choisi la condamnation. C'était un choix libre. Vous ne me prenez pas la vie, a-t-il dit. Je vous donne ma vie. On ne lui prenait pas la vie. C'était un choix libre. Nous n'avons aucun choix. On est né pécheur, point à la ligne, n'est-ce pas? C'est notre nature. Lui, Jésus, il avait une nature substantielle. Il avait cette nature divine. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Expliquez ça à des enfants. Je suis venu par le Saint-Esprit. Je suis venu au monde grâce au Saint-Esprit, papa. Maman, qui est-ce qui m'a mis dans ton ventre? Ah ben, papa, c'est papa, c'est un plantoir, et moi je suis un pot de fleurs. On a toutes sortes d'explications, on est très embêtés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être un peu moins. On était très embêtés, mais pour tout cela. Le Saint-Esprit est venu. Et l'enfant est tellement spirituel. Il comprend ces choses. Il les saisit par l'esprit, justement. Après, il y aura toute cette faculté intellectuelle qui va l'amener à raisonner. Et il dira, c'est pas possible. Ce qui a amené le Coran à dire, j'enverrai un messager qui prendra forme humaine. Et il engendrera le Messie. Et il saute complètement la notion de fils de Dieu. Et il saute complètement l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. En cela, celui qui nie le Fils, celui-là est l'Antichrist. Nous avons besoin de réponses claires que la parole de Dieu nous dit. Moi, je ne peux pas nier Jésus. Je ne peux pas nier qu'il est né à la crèche, ou qu'il soit à Bethléem, le 25. Enfin, puisque la Bible me dit Bethléem, maison du pain, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ça nous amène à arriver à ce texte, qui commence de la même manière. Au commencement, il n'explique rien. Au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Et maintenant, voilà, au commencement était la parole. C'est pas au commencement était Jésus. Et nous devons nous vivre ce que j'ai appelé moi la plénitude de Dieu. Et on ne sait pas trop d'ailleurs qui l'est, on prie. Très souvent dans les églises, je prie au nom de Jésus, tu es guéri. Seigneur, bon, Seigneur, ça va, ça englobe, c'est le Adonai qui englobe tout, quoi. Ça englobe tout. Mais on ne sait plus trop si on doit dire papa ou abba. On dit mon Dieu, c'est déjà mieux. J'ai rarement entendu Elohim, tu nous bénis. Et pourtant, ça serait faisable, n'est-ce pas? Le dé-Dieu, le Dieu au pluriel. Mon Dieu est pluriel. Et il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Alors il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs, à ne pas faire des analogies trop rapides. Je vais t'expliquer la Trinité, ou la Trinité, parce que la Trinité n'existe pas dans la Bible, c'est la Triunité. Et cette Triunité, elle n'est apparue qu'au IVe siècle. Avant, il y avait des bagarres complètes. C'est un peu comme l'apôtre Paul, quand il a été prêché, des gens ne savaient pas qui était le Saint-Esprit, ni avec Pierre ou non plus. Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit, d'un esprit. Je vais t'enseigner sur la fonction, sur le rôle du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, hop, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire rempli de la plénitude. Il y avait le Père, il y avait le Fils. Maintenant, il y a l'Esprit qui habite en toi. C'est la plénitude de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous sommes amenés à vivre, quelle que soit notre compréhension. Mais nous avons besoin d'avoir révélation sur révélation pour aller jusqu'au bout. Vivre la plénitude de Dieu. Oh, c'est si bon. C'est si bon. Je ne pose plus de questions. Seigneur, j'ai plus envie de prier seulement si c'est toi, si c'est ton Père, si c'est le Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu es Elohim. Tu es Elohim. Tu es Yahvé. Parce que Yahvé, c'était quand même plus intéressant. Yahvé, c'était quand même une personnalisation. Elohim, c'était global. Alors que YHWH, rappelez-vous, quand Moïse a été envoyé pour libérer le peuple, dialogue entre Yahvé et Moïse, ou Beau. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Tu leur diras que le Dieu de tes pères, d'Israël, de Jacob, d'Israël, il est venu vers toi et il te délivre. Ils ne croiront jamais. Alors, tu leur diras, Yahvé. Ils vont me demander ton nom. Je suis. Ça, c'est tellement extraordinaire. Je suis. Je suis établi. Je suis vraiment le rocher qu'on ne peut pas déplacer. Je suis. Faites ce que vous voulez. Bousculez-moi. Dites que ce n'est pas vrai. Dites que Allah est le... Dites ce que vous voulez. Moi, je ne bouge pas. Je suis. Et je suis Elohim. Je suis Elohim. Et maintenant, ça va plus frais, je suis. Après, on pourra décliner. Jésus l'a fait. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Ou je suis. C'était mieux encore. Il a dit son vrai nom. Et quand on regarde la suite encore, j'aime aussi, rappelez-vous, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Qui avait été prévu par le Saint-Esprit. Et qui avait dit, voilà, j'enverrai devant toi celui qui prêchera dans le désert et qui annoncera le Messie, justement. Et Zacharie, il était rempli de cette vision. Quand tout d'un coup, voilà Jean-Baptiste qui va naître. Et au moment où Jésus, enfin Marie, portant le bébé Jésus intra-utéro, elle rencontre notre chère Élisabeth. Elle est remplie du Saint-Esprit, parce qu'il y a eu rencontre au sommet. Jésus, Jean-Baptiste, la plénitude. Elle avait entendu l'ange lui annoncer, Jésus, il est plus qu'un ange, il est plus qu'un messager, Il est je suis. Il est avec nous. Oui, pourquoi est-ce qu'il est avec nous? Pourquoi est-ce qu'il est Emmanuel? Parce qu'il est et qu'il sera toujours le même. Il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas seulement en haut, il n'est pas seulement en bas, il n'est pas seulement à gauche, à droite ou devant, derrière. Il est en moi. En moi. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez Jésus, vous voyez le Père, vous voyez l'Esprit. Vous voyez simplement votre nature qui vieillit, sans le maquillage. Allez, faites le pari. Regardez-vous dans le miroir en disant, « Waouh, je suis à l'image, à la ressemblance de Dieu. » Pas seulement à l'image, mais à la ressemblance. C'est-à-dire que je vis dans cette plénitude triunitaire. Oh, c'est formidable, vous savez. C'est formidable de commencer à se rendre compte de tout ça. Et là, il y a eu la première apparition, enfin la première dans le Nouveau Testament, de ce qui s'est appelé par les grands théologiens, n'est-ce pas, une théophanie. Ah, oui, c'est bien, je fais un peu de vocabulaire ce matin. La théophanie, qu'est-ce que c'est? C'est là où Dieu se révèle, justement, dans les trois personnes. Jésus dans l'eau, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui arrive au-dessus, et la voix du Père. C'est la première fois dans le Nouveau Testament où on voit cette théophanie se mettre en place. Avant, il y avait eu déjà avec Abraham, hein, cette histoire des tentes sous le chêne de Mamré, il y avait les trois anges qui étaient venus, et on ne savait pas trop lequel restait. Bon. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, parce que dans les derniers temps, le Père a parlé par le Fils. Mais le Fils était rempli de l'Esprit. La preuve, c'est dès qu'il y a eu ce baptême, dès qu'il y a eu cette onction, cette révélation pour le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, c'est pas forcément une colombe, hein, sous forme. On a dit la colombe de la paix, ben, vous voyez ce que la colombe de la paix à l'ONU, hein. Bon, c'est plus une colombe, hein, c'est un aigle. Cette colombe, ce Jésus et cette voix. C'est fantastique. Mais immédiatement, l'Esprit, donc ça prouve que Jésus était complètement dans cette relation de la triunité, parce qu'il accomplissait parfaitement sa destinée, le plan de Dieu qu'il avait volontairement accepté. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Envoie-moi. C'est formidable. Je sais que je souffrirai. Je sais que je serai rejeté. Je sais que j'aurai tous les problèmes avec mon peuple, qui est un peuple au cou raide, au cou... dur, difficile, mais envoie-moi. Parce que je sais que nous sommes à nous. Moi le Fils, toi le Père, toi le Saint-Esprit, vous êtes tellement à nous. On ne peut pas abandonner ces pauvres bougres, non? On ne va pas les laisser entre les mains de Satan. On ne va pas les laisser, malgré ce qu'ils ont fait. Tous sont privés de la grâce. Ah non, de la gloire. Non, oui. Et pas de la grâce. Choisissons notre adjectif, n'est-ce pas? Notre nom. Je suis dans la gloire. C'est pour ça que je suis à son image et à sa ressemblance quand j'ai reçu cette nouvelle onction de la nouvelle naissance. Et ouais, la suivante. Ah, c'est intéressant. Là aussi, c'est passionnant, ça. Jésus, en haut, se promenait. Il se promenait dans la galerie, on va appeler ça la galerie de Salomon. C'était une galerie qui était sur l'esplanade du temple, avant qu'il ne soit détruit en 70, après Jésus-Christ. Et il se promenait, et c'est dans cette galerie-là, qui faisait grosso modo entre 280 et 300 mètres, il y avait les marchands, et il y avait la foule, et tout le monde se pressait auprès de Jésus pour lui toucher le vêtement, ou pour être guéri, ou pour l'insulter, ou pour discuter avec lui. Les pharisiens voulaient montrer qu'ils étaient, eux, ils avaient la vérité, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais ils étaient un peu chagrinés à cause des miracles. Celui-là, il fait des miracles, comme Nicodème, hein. Il doit être envoyé par Dieu. Donc, même s'ils ils étaient de mauvaise foi. Et ils vont rencontrer Jésus sous le portique de Salomon. On peut se poser la question, pourquoi Jésus s'est-il fait rencontrer sous le portique de Salomon. Il aimait marcher avec les gens du peuple. Il était venu pour tous. Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui n'étaient pas ni pour ni contre. Mais il voulait démontrer, par la puissance de l'esprit qui était en lui, il voulait démontrer, la preuve dit, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Des fois, c'est très embêtant quand on doit insister, n'est-ce pas? On a l'impression qu'on va jeter un gros pavé dans une mare et qu'on va être éclaboussé. Ça arrive souvent, ça. Puis rarement, c'est « Ah, je suis content de ce que tu m'as dit. » Dernièrement, on a fait quelques achats, je ne sais pas, vous aussi sans doute, pour les fêtes alimentaires, ne serait-ce qu'alimentaires. Et je m'étais, moi, amusé, gentiment, à poser la question chaque fois que je passais à la caisse. « Bonjour madame, bonjour jeune homme, bonjour monsieur, bonjour jeune fille. Pourquoi il y a Noël, au fait ? On fait des achats de Noël, mais pourquoi Noël ?» Et tous me regardaient avec des yeux comme ça. Oui, je suis un vil provocateur. Mais nous sommes appelés à témoigner à toute occasion. Et il y en avait une qui... Plusieurs m'ont dit, bah, c'est la venue de Jésus. Il y en a une qui a baissé les yeux, qui ne savait plus où se mettre, et qui a fini par me dire, c'est Jésus. On fête Jésus. Wow. Et nous, nous proclamons à voix haute et forte, Jésus, il est venu, il était rempli de l'Esprit, et immédiatement, l'Esprit l'a emmené dans le désert, où il a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits, au milieu des bêtes sauvages. Imagine, grosse araignée. Yes, c'est fini. Ça va, même si je fais ça, ça va. Des bêtes, les chacals, tout était là. Les anges. Ne sais-tu pas, mon frère, ne sais-tu pas, ma sœur, que les anges sont là pour nous? Nous sommes environnés des anges. Et quand on dit Jésus, il est devant, derrière, moi j'ai envie de dire, les anges sont devant, derrière et autour de nous. Amen. Aussi, parce que les anges sont des esprits au service de ceux qui sont sauvés. Alors, je vis la plénitude du royaume. À mon niveau, je commence à vivre la plénitude. Il ne faut pas non plus être... trop absolu. Je serai complètement dans cet absolu lorsque je le verrai face à face, n'est-ce pas? Mais je veux vivre déjà maintenant cette plénitude de l'esprit. Alors, leur grand débat ce jour-là, c'était pour savoir, tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu? Et tu oses nous dire que toi et le Père, vous êtes un. Et il reprenait la fameuse prière. Souviens-toi, il allait plus loin. Il dit, le Père, il n'est pas seul. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est la même chose pour... Pourquoi est-ce qu'il y a eu la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde? Il y a eu la nature. D'accord? Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et elles deviendront une seule chair. Et quand je vois tous les divorces d'aujourd'hui, je me dis, la chair a été massacrée. Où était l'unité du couple? Comment je vis, moi, cette déchirure personnelle? Si ça m'arrive, quand mes enfants ne suivent pas la voie du salut, c'est une déchirure. Et cette déchirure-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui voudra la combler, qui pourra la combler un jour, peut-être. Mais je sais que ma foi, elle est vivante. L'amour que j'ai, c'est pour eux, pour elles, même s'il y a des problèmes, l'amour ne périt jamais. Je ne vais pas commencer à avoir des ressentiments négatifs. Je continue à prier pour toi. Je continue à t'aimer. Je continue à te réclamer pour le salut éternel. Même si je n'ai pas été parfait, même si tu avais de bonnes raisons, je veux que tu vives la plénitude de Dieu. Amen.
Amen.
Mon frère, ma sœur, toute cette pensée-là, cela sert dans mon cœur et dans mon esprit depuis des semaines. Ce qui fait que c'est très difficile de la délivrer aujourd'hui. Parce que j'étais tellement rempli de cette plénitude que je l'ai prêché tellement de fois à l'intérieur. et je la libère. Je libère cette parole. C'est pas un speech, n'est-ce pas? C'est pas une conférence. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui sort. Tu as pu dire, Paul, tout à l'heure, qu'on était dans la présence de Dieu. Et les chants ont parlé de la Trinité. Avec toi aussi, Martine et Paul. C'est fantastique. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Ah oui, oui. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Tous réunis. Chantez avec moi, s'il vous plaît. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est formidable quand on peut dire à un enfant, tu as deux papas. Parce que Joseph, au bout d'un moment, il comprend que Joseph, aujourd'hui, on dirait qu'il était le compagnon. Il était le boyfriend. Il était vraiment celui qui était mis à côté de Marie pour élever, pour accompagner. Et il fallait que lui-même soit rempli de l'esprit pour accepter cette fonction qui n'était pas tout à fait ordinaire. Et il se sentait très insuffisant. Et pourtant, révélation sur révélation, il sait qu'il va à Bethléem, il sait qu'il doit quitter Bethléem et Nazareth, il sait qu'il va aller en Égypte. Il sait que l'enfant qui va naître, il est saint. Comment vous traduisez le mot saint? Vous le traduisez mis à part, je pense généralement. Moi, je dirais il est bizarre. Il est extraordinaire. Il est hors norme. L'Église, elle est fantastique. Elle est extraordinaire. Elle est hors norme. Pareil, quand tu te regardes dans le miroir, bon, tu peux voir que tu as une oreille plus haute, plus basse, et tu te dis, moi, je suis fantastique. Parce que l'Esprit de Dieu, parce que le Père, parce que le Fils habite en moi. Je suis donc une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. On lit les psaumes différemment. Je te loue, Père, parce que je suis une créature merveilleuse. Et cet enfant, il sera admirable. Conseiller. Et admirable, c'est traduit dans d'autres versions, il sera merveilleux. Il est merveilleux. Wow, j'en ai plein les yeux, j'en ai plein le cœur. Je suis rempli. Seigneur, quand je prononce ton nom, mais... Oh, je ne vous raconte pas tout encore ce matin. Mais on est transporté, frères et sœurs. On quitte la chair, n'est-ce pas? On l'évite. On n'évite pas Dieu. On l'évite. On est sur un autre nuage, n'est-ce pas? On est sur un autre... On est l'évite, oui. On est l'évite, dans la pensée de Moïse. Absolument. Oh, c'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah mais oui, c'est intéressant ça. Sous le portique de Salomon, c'est pas pour rien que Jésus a commencé à discuter sous le portique de Salomon. C'est pas pour rien qu'il allait se promener. Nous, on dit, ouais, bah, c'est bien, c'était l'hiver. Il se mettait là à l'abri, hein, bon, c'était bien. Quoi, on lit, c'était l'hiver, il se promenait dans le portique. Voilà. Non, non. Salomon. Pourquoi sous le portique appelé Salomon? Parce que Salomon, c'est le roi qui avait apporté la paix. C'était celui qui avait la plus grande grandeur, entre guillemets. Celui qui savait tout, qui avait reçu tellement d'abondance. Donne-moi simplement de diriger ce peuple, avait-il demandé. Donne-moi la sagesse. Et en même temps, Salomon, il a eu la domination. Il avait mis sous son influence quasiment tous les secteurs d'Israël autour. La domination reposera sur les épaules de Salomon. À plus forte raison, sur les épaules de Jésus. C'était donc très prophétiquement que Jésus se promenait là pour annoncer qu'il était l'égal du Père et qu'il était en même temps celui qui était le conseiller Dieu Tout-Puissant. Et puis en plus, il allait encore un tout petit peu plus loin parce qu'il a dit qu'il était le berger d'Israël. Je suis le bon berger, Jean 10. Mais vous vous rendez compte? Le psaume 23, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel est mon
berger.
Elohim est mon berger. Elohim Yahvé est mon berger. Il se fait donc lui-même Elohim. Il se met dans la tri-unité. Et c'est pour ça qu'il est légal. La hiérarchie humaine, les rôles et les fonctions, c'est humain. Nous ne sommes plus dans la verticalité. Nous sommes dans l'horizontalité des rôles et des fonctions. C'est fantastique. Quand on voit et quand on lit ces choses, mon frère, ma soeur, je pourrais le prêcher de la même manière avec des mots différents aux enfants. Bon, j'élève un peu le vocabulaire, mais c'est pas grave. Parce que nous, on lit couramment l'hébreu, quoi. Et là, ah, c'est, on lit tout ça. Shalom, 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 shalom. Et alors, dans Jean 17, au verset 21, Jésus prie. Il prie son Père. C'est intéressant. Il avait donc bien conscience, quand il était sur la terre, qu'il avait un Père. Il avait donc une filiation qu'il reconnaissait par le Saint-Esprit. Alors que, quand il y avait au commencement, il n'y avait pas le Père. Il y avait le Créateur, et il y avait la Parole, et il y avait l'Esprit. Donc quand Jésus vient, il reconnaît toutes ses prières à lui, ses Pères. Je te prie afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Eux en moi et toi en moi. Et c'est là où je retrouve l'Ancien Testament. Nous sommes créés non seulement à son image, mais à sa ressemblance. Et tu ne sais pas à qui tu parles. Un jour, je me suis fait interpeller dans la rue par un jeune d'origine... qui n'est pas la mienne. Il faut faire attention quand on est enregistré, n'est-ce pas? Et il m'a dit, prouve-moi que tu es Dieu. Prouve-moi que tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Je dis, regarde-moi, là. Plonge tes regards dans mon regard. Et alors, tu ne vois pas Dieu en moi? Alors là, tu as besoin de conversion. Tu as besoin de révélation. Tu as besoin de changer ton logiciel. Tu dois rencontrer celui qui m'a aimé le premier, celui qui t'aime et qui t'aimera toujours, même si tu es en train de le nier à cause de la religion qu'on t'a inculquée. Être vrai, parce qu'on est dans la plénitude de l'esprit. Les anges viennent pour nous servir, comme Jésus quand il était sur le mont de la tentation. Les anges étaient là pour le saluer, pour l'entourer, pour lui permettre de résister contre les attaques de l'adversaire, de trouver non pas seulement des arguments, mais la puissance de la parole faite chair. Waouh! Qu'on est bien dans l'Église. On est des gens bizarres pour les gens du monde. On est des gens extraordinaires pour Dieu. C'est le papa normaux, quoi. Extraordinaire. Avant, on était pécheurs, non repentis, on était ordinaires. Nous sommes maintenant tout à fait dans une autre démarche. Alors je voudrais arriver quand même au Saint-Esprit, avant quand même d'arriver à l'unité. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a eu des bagarres entre théologiens. Vous avez entendu parler aussi du premier concile officiel, le concile de Nicée. Vous étiez là, en 325 ou 385. Et c'est là où il y avait un monsieur qui s'appelait Arias. Et voilà. Tu connais Arias? On est au moins deux ici. Arias, c'était un gars, il ne voulait pas, enfin il n'était pas, c'était pas un gars, c'était un théologien. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'église très constituée. Chacun était un peu dans son interprétation, et lui, il maintenait le fait que Dieu n'était pas Jésus, quoi, et que Jésus ne pouvait pas être Dieu. Dieu, il était unique. Jésus, il était le Messie, peut-être, même le Coran le dit, qu'il sera le Messie, qu'il viendra, il dominera, tout ça, c'est ok, mais il n'est pas l'égal du Père. Alors c'était très embêtant, parce qu'il a fallu quand même qu'un empereur après les années 385 un petit peu, disent clairement, c'est officiel, la religion chrétienne sera la religion officielle, et maintenant nous proclamons la Trinité de Dieu. Nous acceptons que Jésus soit égal du Père. Et quand vous regardez, mais ça nous poursuit encore aujourd'hui, ça. Les témoins de Jéhovah. Lisez la Bible des témoins de Jéhovah. Bon, je ne vous conseille pas de vous y attarder. Mais celle de Chouraki, oui. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant de dire Elohim, Yahvé, tout le temps. Mais c'est juste. Il traduit le fait que Jésus n'est pas Dieu. Et le Coran est un mensonge, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure. Il prend et il tronque. C'est dur de le résister s'il n'y a pas la révélation. Et actuellement, dans le milieu musulman, il y a énormément de révélations par le Saint-Esprit. Justement, il y a eu l'ère, la dispensation, on peut appeler ça comme ça au niveau théologie, la dispensation de Dieu Père, puis il y a eu la dispensation de Dieu Fils, puis maintenant il y a la dispensation de Dieu Saint-Esprit. Alors ne ratons pas le Saint-Esprit. Ne ratons pas le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Jésus a dit, en Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. » Alors, je suis interpellé, parce que plus loin, dans Jean au chapitre 16, Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. » Alors, qu'est-ce qu'il me donne? C'est le Père ou le Fils? Pourquoi je ne reçois pas? La Bible, elle est incompréhensible, elle est pleine d'incohérences. C'est ce que je disais avant d'avoir reçu la révélation du Seigneur pour ma nouvelle naissance. C'est plein d'incohérences, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir par notre intelligence. On a besoin de la révélation. Le mystère de la Trinité, heureusement que Dieu ne va pas s'expliquer dans le détail de ce qu'il est au commencement, était Elohim. Et même au portique de Salomon, Jésus leur a rappelé, mais dans votre texte, dans votre parole, il est bien écrit, vous êtes des dieux. Non pas des dieux de la mythologie, n'est-ce pas? Vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous êtes à l'image de celui qui vous a créé. Vous êtes à l'image d'Elohim. Et vous êtes à l'image de Yahvé. Alors ne me parle pas de n'importe quelle manière, garçon. Je suis fils de roi ici. Tu parles à un fils de roi. Et rappelez-vous, quand vous parlez à votre épouse, on ne parle pas n'importe comment une épouse. Elle est fille de roi. Excuse-moi. Oui, mais j'en ai marre, parce que je suis reine. Et réciproquement. Saint-Esprit, je suis embêté encore quand je lis. Au moment de la multiplication des pains, et également au moment de la résurrection de Lazare, Jésus a prié. Et il a prié le Père en disant, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Ouais, moi ça fait 3 semaines que je jeûne, je ne suis toujours pas exaucé. Pourtant je suis un bon chrétien, je suis en culte régulièrement. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Finalement, que je sois exaucé ou pas, ce n'est plus plus mon rôle. Ce n'est plus ma prérogative d'être exaucé. Seigneur, fais ce que tu veux. L'arabe, Inch'Allah. Mais c'est, nous, on dit, selon ce que tu veux, Seigneur. C'est autre chose. Le Inch'Allah, il est passif. Et je peux rien faire. Nous, j'ai confiance en toi. Le Dieu voulant, c'est ça. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu feras tout parfaitement en ton temps. On vient de recevoir une invitation pour aller à un mariage. Le fiancé a à peu près 40 ans et la fiancée en a autant. Et sur son faire-part de mariage, il a écrit « Dieu fait tout parfaitement en son temps. » Évidemment, 40 ans, ça fait un peu âgé des fois. Ils ont pris des habitudes de célibataire. Et c'est plus simple de se marier quand on a 20 ans. Moi, j'avais 20 ans. Tu vois un peu dans quel état je suis. Je suis très souple. Et pareil pour Francine. Nos caractères se sont modulés. On a été travaillés ensemble, on a été roulés ensemble dans le même torrent. Donc nos pierres se sont arrondies. Mais le Saint-Esprit, il demeurera en vous. Si vous demeurez en moi, Jean 14, 14, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Avec qui veux-tu que je me marie? Seigneur, réponds-moi, d'une manière ou d'une autre. Que veux-tu, Seigneur? Je mets ma vie complètement entre tes mains. C'est ce qu'a fait Jésus. Toute ma vie. Tu veux que je sois réussi, que je sois accepté comme médecin, comme chirurgien en chef? Je ne sais pas, Seigneur, ce n'est pas ma voie. Mais montre-moi que c'est la voie. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, jeune, si tu prends une voie qui n'est pas celle que Dieu a choisie, il t'arrêtera. Elle te ramènera sur la voie qu'il a choisie. Parce qu'il veut que tu sois dans sa destinée. Amen. Afin que tu sois réellement à sa gloire. Et ça, c'est formidable. Jamais, moi je ne serai jamais pasteur. Je ne dis pas ça pour toi. Hein. J'en ai connu comme ça. Moi, mon père était pasteur, il n'était jamais à la maison. Mon père, chez nous, on avait des discussions théologiques, etc. Et bien, ça lui est tombé dessus. Il est pasteur, celui qui a dit ça. Je n'ai pas prophétisé. C'est extraordinaire. L'Esprit nous amène à aller plus loin. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans la parole de Dieu. Mais maintenant, est-ce que nous ressemblons à ces deux-là qui arrivent? Si tu appuies sur la suivante, ils vont arriver. Anne et Siméon. Ouh là là, vite. Francine m'a dit, je ne suis pas là ce matin, comme ça je ne te ferai pas signe. J'ai dit que je le dirai à tout le monde. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple, poussé par l'Esprit. Il était dans l'Ancien Testament, complètement dans l'Ancien Testament, dans la tradition des Hébreux. Il attendait autre chose. Il attendait la gloire. Et il a vu la gloire. Il a contemplé ce Jésus. Il a tenu, il a été poussé pour aller au temple. Et dans le temple, il y avait déjà une autre dame, Anne, 84 ans. Elle avait été mariée seulement 9 ans avec son mari. Elle parlait de Jésus à tout le monde. Voilà celui qui est la lumière. Voilà celui qui est l'envoyé. Voilà celui qui va être le sauveur et qui est le sauveur. Nous ne sommes plus du tout abandonnés. Nous avons un sauveur.